Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de C'est la faute à la manette de cette année 2015. Une année qui a été décidément riche en émotions vidéoludiques de toutes sortes. C'est pourquoi nous allons vous aider à passer ce cap difficile qu'est la soirée du nouvel an. Pour m'accompagner lors de cette tâche ardue, voici l'homme dont la garde-robe ne se compose que de produits Star Wars, j'ai nommé Guillaume. Salut Guillaume.
Bonjour tout le monde, bonjour Julien, ça va?
Ouais, ça va, un petit peu malade, mais vous l'entendez déjà, je pense. Alors Guillaume, prêt pour bien finir cette année? Est-ce que t'as pris des résolutions hormis ton écran d'ordinateur?
Ah merde, tu me prends... comme résolution, je pense moins penser à Star Wars, alors essayer de trouver d'autres vêtements que des vêtements Star Wars.
D'accord.
Pour l'avenir.
Tu trouveras des vêtements Star Wars Rogue One, du coup.
Ouais, voilà. Parce que ça change vachement, du coup.
Voilà. Bon, bah écoute, merci Guillaume. Avec moi également, l'homme qui pourrait tuer une mouche rien qu'en la regardant dans les yeux, mais aussi l'ami des chats, sauf du mien. J'ai nommé Tom. Salut Tom, comment ça va?
Salut Julien, salut à tous, ça va bien.
Ça va. Alors, comment vois-tu cette année 2016? Allez, fais Nostradamus, éclaire-nous de tes prophéties.
Alors, évidemment, je vais faire la prophétie de tous. Je pense qu'en 2016 sortira Half-Life 3.
Non. Non.
Je pense pas. Que ça se peut. Je vous le dis.
Ni Star Citizen.
Voilà. Non, Star Citizen, non, par contre.
Je te parie un Subway que non.
D'accord.
Voilà.
C'est un pari.
C'est tenu. Et parce qu'il faut bien quelqu'un pour présenter tout cela, je suis ici fidèle au poste, un peu malade, mais prêt à accueillir 2016 à bras ouverts.
Ouais.
Donc bien sûr, qui dit fin d'année dit émission spéciale, c'est pourquoi aujourd'hui encore, nous ne changerons absolument pas notre formule et qu'on réserve ça pour l'année prochaine, du coup. Voilà. Alors, au programme de cette troisième émission, on va commencer comme d'habitude par une petite sélection de 6 news estivales qui sentent bon le champagne et les petits fours à consommer quand même avec modération. Nous en profiterons sur fond de musique de Kingdom Hearts, donc une saga de RPG culte qui mêle Disney et Final Fantasy, qui est sortie sur à peu près toutes les consoles existantes, puisque Square Enix va manger à peu près tous les râteliers possibles et imaginables. Donc suivi par le traditionnel test de la semaine consacré cette fois-ci à Pillars of Eternity, donc un jeu de PCiste pour le PCiste que nous avons ici. Enfin, et comme le réveillon approche, on vous fera une sélection des jeux indispensables pour passer une très très bonne soirée, soit entre amis geeks ou amis non geeks, donc ce qu'on appelle généralement la famille.
Les casus.
Ouais, ou la famille. Donc votre réveillon, grâce à nous, sera le meilleur, et vous pourrez dire du coup que c'est grâce à la faute à la manette.
Voilà. C'est compliqué à dire, mais ouais.
C'est assez compliqué, effectivement. Ouais. Et donc comme équivalent du trou normand, vous aurez droit à des petites pauses musicales histoire de bien digérer tout ça, puisqu'on en a besoin après les fêtes. Je pense que vous aussi vous avez
entre
beaucoup...
deux tranches de foie gras.
Est-ce que vous avez beaucoup mangé encore cette année?
Ouais, et beaucoup bu.
Beaucoup
oui,
bu.
Moi aussi un maximum.
D'accord. Ok. Donc beaucoup de coca, beaucoup de champomis pour
ouais,
toi.
Ouais, du champomis, ouais.
C'est
voilà,
ça.
Exactement.
J'adore la pomme.
Alors, on va tout de suite du coup commencer les news. Donc Guillaume, je te laisse lancer la musique.
C'est parti.
Alors, pour cette première news, donc c'est moi qui vais commencer cette fois-ci, on va reparler de Mass Effect Andromeda. Alors, Mass Effect, qu'est-ce que c'est? C'est une des, pour moi, la meilleure saga de RPG sortie sur la génération précédente, donc ça, c'est meilleur que Star Wars, c'est plus riche, c'est plus sympa, et c'est une trilogie excellente, même si elle a été un petit peu critiquée sur la fin de sa vie. Et Mass Effect Andromeda, c'est donc le quatrième épisode de la saga qui devrait sortir très bientôt. Et on n'en avait pas eu beaucoup de nouvelles ces derniers temps, effectivement. On s'est dit que le projet était peut-être en berne, et non pas du tout, puisqu'on apprend au début de la semaine dernière que le titre est enfin jouable, donc ça nous rassure, apparemment il est assez avancé et ça a l'air plutôt bien. Mais, au début de cette semaine, on apprend également que le directeur créatif de Mass Effect Andromeda se fait la malle, et du coup qui part vers d'autres horizons, donc... Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Non, ce n'est jamais une bonne nouvelle quand un directeur créatif se barre un petit peu avant la fin du projet. Alors, est-ce que ça veut dire que le jeu est en péril ou pas trop ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, pour ma part, je ne pense pas. C'est très fréquent, en fait, que des membres de staff importants s'en aillent avant la fin de leur...
Kojima.
Voilà, par exemple, Kojima, par exemple. On peut prendre l'exemple un peu plus vieux de Final Fantasy XII qui avait carrément perdu son créateur.
Alors,
en fait,
Final Fantasy XII, c'est un petit peu plus particulier. Il a changé de créateur plusieurs fois. Le projet a changé de forme aussi beaucoup de fois.
Mais voilà, c'est plutôt fréquent qu'un membre d'un staff s'en aille, même si c'est un directeur créatif. Moi, j'ai pas d'inquiétude.
D'accord, donc vous y croyez encore ?
Ouais, bah ça va être un jeu IA de toute façon.
Ah, mais c'est Mass Effect, je pense oui. qu'on peut faire confiance à...
C'est vrai que ce sera probablement le quatrième, ce sera le meilleur épisode de la trilogie, je pense.
Ouais, ah bah c'est sûr.
Oui, je n'ai pas relevé cette blague, effectivement, bien vu.
Ouais, ça va peut-être faire comme Star Wars, la première trilogie était bien, la seconde sera peut-être, on aura peut-être notre Jar Jar Binks hein, dans le 4.
on reviendra sur Star Wars de toute façon tout à l'heure. Donc Tom, tu voulais nous parler du coup de Steam,
oui,
PCiste
de Steam.
Que tu es.
Alors le PCiste que je suis a pu profiter des soldes Steam comme tout le monde et dépenser tout son argent dedans. Mais il se trouve que pendant ces soldes Steam, c'est trouvé un bug en fait qui a pu permettre à certaines personnes de visualiser le profil d'autres personnes en fait dans leur connexion, dans leur page personnelle, ils avaient les données d'autres personnes. Donc ça a été plutôt gênant parce que dans ces données personnelles figurent entre autres des numéros de téléphone et de cartes de crédit. Alors il se trouve que donc Steam a pu répondre assez vite entre guillemets accusation en disant que seuls les quatre derniers numéros de la carte de crédit et du numéro de téléphone étaient visibles puisque c'est interdit par la loi en fait de en montrer plus et donc aucune donnée personnelle n'avait fuité et que donc tout ceci n'était qu'un problème de cache mémoire donc.
D'accord. En gros, Valve a dit aux joueurs allez vous faire chose.
Allez vous faire Gabe Newell. Et il y aura donc aucune réparation d'aucune sorte pour ce bug qui au final est simplement
mais qui a fait grand bruit quand même pendant deux jours
mais
et
tout à fait,
les gens étaient assez inquiets d'ailleurs à ce sujet.
Ils vont peut-être nous donner Evolve gratuitement.
Sûrement.
Personne n'en veut même gratuitement de Evolve.
Bon, on verra bien.
Guillaume, vu que tu prends la parole, tu avais une news à nous
oui,
annoncer.
Oui, c'est j'ai l'impression que j'en parle à chaque épisode. Du coup, c'est toujours Tomb Raider le sujet. On avait déjà fait une émission sur Tomb Raider, on avait parlé aussi la semaine dernière, dans le Top Flop. Et là, alors, c'est pour annoncer une nouvelle qui est assez cool pour les PCistes comme nous avons à cette table.
On en a un et...
Voilà. Donc, c'est l'arrivée du mois prochain de la version PC de Rise of the Tomb Raider, donc la suite du reboot de
Tomb Raider. Qui est sorti en 2013.
Qui a du coup pour l'instant été qu'une exclusivité pour Xbox One et donc maintenant qui arrive sur PC. On n'a pas encore d'infos pour la PS4 il me semble.
Non, ça n'a pas été annoncé mais on peut noter par contre que Microsoft a bien négocié son exclusivité parce qu'elle a duré 2 mois. Deux mois en tout et pour tout.
Les PC c'est Microsoft aussi donc finalement...
Oui mais c'était prévu quand même pour arriver quelques temps après et pas aussi rapidement.
Bah pourtant ils ont quand même eu déjà la première semaine une vente de 300 000 exemplaires ce qui est plutôt pas mal pour un jeu solo je trouve.
Tout à fait.
Donc voilà, il va sortir donc en janvier 2016 sur PC, pas d'infos sur du coup la PS4 mais... On pense qu'il sortira vu que l'autre était sorti déjà et que c'est qu'une exclusivité temporaire.
Oui, et puis il y aura plein de bugs et puis la communauté devra le réparer tout seul comme à chaque fois sur PC.
Effectivement.
voilà, c'est tout pour cette news. Julien, du coup, ta deuxième news que tu avais à nous proposer.
Oui, alors on va revenir un peu en arrière. On revient en 1996, la date de sortie d'une saga qui va devenir célèbre, incroyable.
La naissance. Ah non.
La naissance finalement de Pokémon. Alors Pokémon, on y a toujours peut-être Guillaume t'y a joué quand t'étais gosse, Tom aussi je suppose,
oui,
un petit peu comme tout le monde
évidemment.
Alors Pokémon revient sur Nintendo 3DS donc sous la forme d'un jeu dématérialisé, finalement c'est la ROM d'époque qu'ils ont mis sur l'eShop.
D'accord.
Et pour cette occasion au Japon ils vont sortir 4 bundles, donc le jeu dématérialisé plus la console 2DS.
Oui.
2DS qui n'était pas sorti au Japon, c'est pour ça du coup qu'ils s'amusent à faire des bundles. Il y aura 4 bundles différents, donc avec les 4 versions sorties originellement. La bleue, la rouge, la verte et la jaune spéciale Pikachu. Et on peut le voir, hein, le packaging est vraiment très joli.
Magnifique.
Je suis en train de le montrer à mes collègues.
Effectivement.
Donc un packaging qui respecte vraiment les codes de l'époque.
Ça rappelle vraiment les Game Boy Color, quoi. Enfin,
voilà,
ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est ça. La coque est transparente et donc il y aura une jaune, une bleue, une rouge et une verte. Et moi, ça me fait plaisir et ça sort en février, mais uniquement au Japon. Donc préparez-vous à l'importer.
On peut quand même préciser que du coup, ce sera vraiment les versions d'époque, même les échanges. On pourra faire quand même des échanges sans cap, du coup. Mais
voilà. Alors c'est les versions d'époque, mais remanier un tout petit peu pour que les échanges soient plus fluides et soient faisables sans fil, puisque à l'époque, on faisait
des
pas tout en Wi-Fi. On prenait des petits câbles Link. On connectait nos consoles et on est vieux. Voilà.
Nos consoles simplement avaient des rapports protégés avec des câbles.
Plutôt non protégé, je
dirais. Non protégé, oui.
On peut rappeler aussi, pour ceux qui sont peut-être un petit peu réfractaires au graphisme de la Game Boy originale, qu'il y a eu aussi des remakes de Pokémon Bleu et Rouge qui s'appellent Rouge Feu et Vert Feuille.
Sur Game Boy Advance,
qui
sont assez difficiles à trouver maintenant.
Voilà, mais toutefois de très bons jeux, un très bon remake.
Mais voilà, ces versions du jeu, du coup, coûteront, je crois, 5 ou 6 euros pièce, donc... Laissez-vous tenter si vous avez jamais fait l'original.
À l'époque, la bleue, je l'avais achetée 3 euros, moi. Ou 9 francs.
Oh.
Ça dépendait.
Oh, je l'avais acheté plein pot à l'époque.
Oui, moi aussi.
Enfin, voilà.
Alors, news suivante, du coup. Tom, tu avais autre chose à nous annoncer.
Oui, alors je vais vous parler un petit peu d'un trailer récent, d'un trailer de Kingdom Hearts 3, qui est attendu par certains de nos présentateurs comme le Messi.
Hein. Et oui, tout à fait.
Et donc qui nous présente des combats. C'est un trailer donc qui a été diffusé au Japon lors d'un festival et qui nous montre donc beaucoup de pugilat, on va dire, dans les décors du film Réponse. Où on peut voir donc Sora, le héros de la série. Donc c'est une série d'action RPG, hein, donc beaucoup de bagarres dynamiques avec toutefois des niveaux, etc.
Et un niveau par personnage ou thème de Disney, on
voilà,
peut le rappeler.
Effectivement, donc on peut rappeler que c'est un crossover, donc un mix entre les univers Disney et Square Enix, donc Final Fantasy principalement. Mm. Et donc un trailer tout à fait alléchant où on peut voir donc l'Unreal Engine 4, oui, sous lequel le jeu est développé, qui a des effets de lumière plus que corrects, on va dire. Mm. Ça fait plutôt plaisir d'avoir des nouvelles de ce jeu, parce que ça faisait quand même depuis le 3, je crois, qu'on n'en avait pas eu.
Oui, c'est ça.
Et on a, bon, alors malheureusement, toujours pas de date de sortie de ce jeu, qui sortira donc toutefois sur PlayStation 4 et Xbox One.
Il me semble que normalement, ça devait être à Noël prochain.
Noël prochain, d'accord.
Je pense qu'on a le temps de voir encore.
Je pense qu'on a le temps de voir arriver, effectivement, parce que c'est un jeu donc, qui est vraiment... qui a un marketing faible, on va dire, pour l'instant. Donc on va attendre que la machine se lance avant de stipuler, je suppose, sur une date de sortie.
Comme tous les jeux Square Enix.
Et puis ça fait plaisir, parce que c'est vraiment un des jeux de la vague next-gen, finalement. C'est un jeu qui est développé pour la nouvelle génération et qui n'est pas le cul entre deux chaises, un petit peu comme on a en ce moment avec avec les dernières sorties.
Tout à fait.
Donc... vraiment une grosse attente de ce côté-là.
Et en plus, qui sortira sur Xbox aussi.
Sur Xbox pour la première fois, sur une console Microsoft, effectivement. Si vous commencez effectivement sur Xbox, il va falloir vous renseigner parce que l'histoire est plutôt complexe. Ouais, hein. On l'a évoqué un petit peu en antenne tout à l'heure.
Malheureusement.
Kingdom Hearts, c'est une dizaine de jeux assez compliqués avec une histoire qui part dans tous les sens. Donc accrochez-vous, mais c'est vraiment une série qui en vaut la peine.
Effectivement.
Voilà. Guillaume, je crois que tu avais une dernière news à nous présenter.
Oui, alors fanboy que je suis, ça va être une news sur Star Wars.
Ouh,
étonnamment. Donc ça va être plus précisément sur le jeu vidéo Star Wars Battlefront, donc le jeu qui est sorti en novembre dernier, qui a connu une mauvaise critique, qui est pas terrible en fait, qui manque de contenu, mais qui est très beau.
Et qui n'a pas très bien marché, je crois.
Alors là, aucune idée.
J'ai pas de retour, mais il me semblait qu'il avait pas si bien marché que ça. Ah. Après, j'en suis pas sûr. À confirmer.
Enfin, du coup, la hype est redescendue, donc un jeu yé avec plein de season pass. Et là, du coup, on a eu la réponse que beaucoup de gens, je pense, attendaient. Donc après, à nous avoir sorti un DLC, la bataille de Jakku, donc qui recontextualisait l'histoire de Star Wars 7. Donc c'est une bataille qui se passe 20 ans avant le 7, et c'était le premier DLC de Star Wars. EA vient d'annoncer que du coup avec tous les DLC qu'il y aura pour ce jeu Star Wars Battlefront, il n'y aura pas du tout le Star Wars 7 qui sera exploité, donc aucun personnage, aucun lieu de Star Wars 7, rien du tout.
Sauf
donc,
la bataille de Jakku.
Sauf la bataille de Jakku, et donc ils veulent se concentrer que sur la première trilogie, donc 4, 5, 6.
D'accord, donc ça promet des futurs Star Wars Battlefront.
Ah bah c'est sûr que là, ils vont, je pense, bientôt qu'on va avoir un Rogue One, donc le prochain film Star Wars, qui ne sera pas le 8, mais qui sera du coup un épisode qui se passera entre le 3 et le 4. Donc on aura peut-être des jeux, en plus Rogue One s'annonce d'être un film plutôt militaire, donc ça pourrait être vraiment... la suite d'un Battlefront.
Alors, j'en profite du coup pour vous poser la question, puisqu'on parle de Star Wars. Est-ce que vous avez aimé Star Wars 7? On va commencer par toi, Guillaume.
Alors, ouais, je suis allé le voir en VO et j'ai beaucoup aimé, parce que c'est Star Wars déjà, et j'ai eu ce que je voulais, j'ai adoré le méchant Kylo Ren, quoi qu'on puisse en dire. Et voilà, le seul bémol du coup c'est la musique que je trouve pas assez présente, mais bon, voilà.
D'accord, et toi Tom ?
Alors moi je suis un fan, je suis un petit peu ce qu'on appelle un fan hardcore de Star Wars.
Et c'est la pire espèce.
Effectivement, malheureusement, mais je l'ai beaucoup beaucoup aimé aussi, je dirais que c'est mon troisième préféré des sept. Je dirais qu'il a quelques petits défauts, dont une héroïne qui sait un petit peu tout faire, ce qui m'a un petit peu embêté.
Info.
Et moi, par contre, j'ai eu quelques petits problèmes avec le méchant que je trouve un petit peu anti-charismatique, malgré quelques moments, malgré quelques fulgurances, on va dire. Néanmoins, un excellent film.
D'accord. Alors moi, je me permets juste de donner du coup mon avis en tant que non-fan de Star Wars. À la base, c'est vraiment une série que j'apprécie
oui,
pas du tout.
Il en existe.
Il en existe, mais effectivement. Oui. Et ben moi j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment là où finalement les autres m'avaient un petit peu ennuyé, où l'univers ne m'accroche pas de toute façon. J'ai trouvé celui-là très agréable à regarder. J'ai passé un très bon moment, donc je pense que pour moi la série est très 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 bien repartie. Mmh. Voilà, tout simplement.
C'est sûr.
Et donc c'était notre dernière news.
Tout à fait.
Déjà. Mmh. Et ben on fait une petite pause musicale avec toi Guillaume, c'est parti.
Alors du coup nous allons nous écouter la musique intitulée de Nico Vega qui s'appelle Beast, qui était en fait la musique du trailer à la sortie de BioShock Infinite. Donc voilà, on se retrouve juste après cette musique sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans l'émission C'est la faute à la manette. À tout de suite.
Living off the government's dime. Stack up all the people of the land.
On vient de s'écouter donc Nico Vega Beast, donc du trailer de BioShock Infinite. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Gorefeus, à Julien.
Vas-y, ok, Julien. Alors, cette semaine, donc, il restait une personne qui n'avait pas fait de test encore, et c'était bien sûr notre ami Tom.
Tout à fait.
Juste là. Alors, cette semaine, il va nous présenter un des petits jeux dont il a le secret, un jeu de PCiste dont personne n'a entendu parler sauf lui.
Effectivement.
Tom, vas-y, tu vas nous présenter Pillars of Eternity. C'est bien ça ?
Tout à fait, Pillars of Eternity.
Voilà, du coup, comme d'habitude, tu as joué au jeu, nous pas oui. Du tout. On va te poser des questions, savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et je suppose que si tu l'as choisi, c'est pas si mal que ça.
Il est même très très bien. Il se trouve donc, alors, Pillars of Eternity, il va falloir, avant de le présenter, que je vous présente le studio qu'il a fait.
Je t'en prie.
C'est le studio Obsidian. Obsidian, donc, c'est un studio relativement connu,
oui.
Qui ont fait Fallout New Vegas. qui était l'avant-dernier épisode de la série,
ouais, c'est ça.
Qui est considéré par certains comme un des meilleurs, par d'autres, enfin c'est un épisode un petit peu contrasté, on va dire.
C'est ça, ouais.
C'est aussi ceux qui ont fait KOTOR 2, donc Knights of the Old Republic, qui est un jeu Star Wars qui, là par contre, doit être est dans le top 10 des meilleurs jeux Star Wars.
Un très très bon RPG,
voilà,
en plus de ça.
C'est pas n'importe quoi, KOTOR 2. Pour vous donner une idée, ceux qui ont fait KOTOR 2, certains de l'équipe de KOTOR 2 sont partis dans une autre firme pour faire Mass Effect. Voilà, donc des habitués, on va dire, du RPG.
BioWare.
Voilà, donc qui ont fondé BioWare. Et donc Obsidian, c'est aussi le jeu South Park qui est sorti récemment.
Qui était un RPG dans l'univers de South Park.
Qui est le meilleur jeu South Park, tout bêtement.
Tout simplement.
Voilà. Tout simplement, ouais.
Il se trouve donc Obsidian, en fait, c'est le nouveau studio qui en fait est composé de membres d'un ancien studio, évidemment, qui s'appelait Black Isle. Et donc Black Isle ont fait carrément Baldur's Gate 2. Donc excellent RPG, voilà, si vous avez déjà joué à un RPG, vous connaissez probablement Baldur's Gate 2.
Jeu légendaire pour les PCistes. Hein,
exactement. Et les deux premiers Fallout. Donc on parle du studio qui a fait les premiers Fallout, Baldur's Gate 2, KOTOR 2, qui nous fait un jeu dans la veine de Baldur's Gate 2. Donc on parle d'un univers d'heroic fantasy, en vue du dessus, donc isométrique. On guide un groupe de 6 personnages à travers des aventures. Donc ça ressemble énormément à un jeu de rôle papier, et le roleplay est omniprésent. Et c'est un jeu donc, qui a la particularité d'être kickstarté. Et puisque donc, aucun éditeur voulait se frotter à une tâche de cette ampleur, on va dire.
Forcément, si le projet est ambitieux, personne n'investira dedans.
Exactement. Voilà. Et c'est un jeu qui a été financé à hauteur de 3 986 929 euros. Donc on va partir sur 4 millions
ça fait
de dollars.
Ça fait pas mal de McDo, je trouve.
Voilà, qui a été financé à hauteur d'un max de McDo. Et donc un budget plutôt conséquent. À l'époque, c'était le jeu qui avait levé le plus de fonds sur Kickstarter. C'est donc ce jeu-là que j'ai joué ces temps-ci, et il est excellent, je vous le recommande une fois, deux fois et même trois fois. Je vais donc vous laisser me poser quelques petites questions.
Alors, donc tu y joues depuis combien de temps ?
Alors là, j'ai à mon actif une vingtaine d'heures de jeu, réparties sur à peu près 2 semaines, je dirais.
D'accord.
Que je l'ai découvert il y a peu parce qu'il était en solde sur Steam, et j'ai accroché tout de suite... En premier parce que donc à cause de mon passif sur ces jeux-là, c'est des séries que j'aime beaucoup, et en plus parce que je trouvais qu'il y avait peu de RPG jouables en ce moment.
D'accord, donc l'histoire concrètement, ça raconte quoi ?
Alors l'histoire basique, donc un univers heroic fantasy dans la veine du Seigneur des Anneaux, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. On joue un personnage créé de toutes pièces, qui n'a au début que très peu d'histoire, mais donc on le crée vraiment de A à Z, de son visage à ses caractéristiques, vraiment exactement comme un jeu de rôle papier, avec des statistiques sur 20, plus des talents, etc. Donc, très complet. Et ce personnage veut se rendre dans un village, puisqu'il globalement il déménage, et il se retrouve dans une sorte de tempête magique de laquelle il doit se protéger, et en se protégeant se retrouve face à un événement un petit peu spécial qui lui donne le pouvoir de parler avec les morts. Et donc, via cet événement, on apprend très vite que ce personnage est devenu un gardien, et on ne sait pas ce que ça veut dire être un gardien. Donc, toute l'introduction du jeu, c'est qu'est-ce que c'est être un gardien, qu'est-ce qu'on est devenu. Et donc, on regroupe d'autres aventuriers sous notre égide. pour essayer de savoir ce que ça veut dire.
D'accord, donc ça me laisse penser que le jeu a l'air assez long.
Tout à fait. Donc après, après 10 heures de jeu, j'ai eu enfin fini le tutoriel.
D'accord, donc pour la longueur d'un Call of Duty, tu as terminé l'introduction.
De... Effectivement.
Ouais. Plus qu'un Call of Duty.
Plus qu'un Call of Duty.
Et donc au bout de 20 heures, j'ai enfin débloqué, je dirais, 3/4 des fonctionnalités du jeu, c'est-à-dire qu'on finit par acquérir un bastion qui deviendra donc une grande forteresse au fur et à mesure du jeu, donc de nos aventures.
D'accord, donc tu l'estimes à quelques centaines d'heures.
Je vais l'estimer à vue de nez à, je dirais, 80 heures.
Ce qui est plutôt dans la bonne
vraiment
moyenne.
Vraiment à vue
de nez. C'est un bon RPG. Quoi.
Surtout en ce moment, d'ailleurs.
Oui, bah.
Tout à fait.
Et d'accord. Il coûte combien ? Tiens, pas...
Alors, j'ai souvenir qu'il coûte le prix fort, soit 40 euros.
Ouais, et tu fais combien
Néanmoins, j'ai réussi à l'acquérir à 13 euros, je crois, 13,99 €. Ah oui. De toute façon, à 40 euros, pour si vous êtes un fanatique comme moi de Baldur's Gate 2, c'est un très très bon investissement. En ce moment, c'est les soldes Steam, je suis presque sûr qu'il est soldé. Je vous dirais que ça vaut le coup même à 40 euros. À 20 euros, ça commence à être une excellente affaire.
D'accord, donc le jeu, tu m'as dit, se joue un petit peu comme Baldur's Gate, ou est-ce
exactement.
Que c'est du tour par tour?
C'est comme Baldur's Gate, avec une pause active. C'est aussi comme Dragon Age premier du nom. Vous voyez vos personnages vus du dessus, vous les faites se déplacer librement. Quand il y a des ennemis qui arrivent, le jeu se met automatiquement
en pause.
Hein. Et donc on a des combats très tactiques, assez difficiles, à des difficultés plutôt relevées. Et contre donc des multitudes d'ennemis, c'est un jeu qui se base beaucoup sur les altérations d'état. Renverser un ennemi, ça veut vraiment dire quelque chose. Un ennemi armuré ne se combat pas de la même façon qu'un ennemi sans armure. C'est très tactique, on va dire.
D'accord, donc c'est le jeu de rôle papier sur ordinateur.
Tout à fait, il y a vraiment un feeling jeu de rôle papier. Alors par contre, ne vous attendez pas à une débauche d'effets visuels. C'est un jeu qui est plutôt sobre. Néanmoins, bon, il y a toujours de la magie pour faire des jolies lumières. Mais ce n'est pas très dynamique. Disons que c'est... pour faire un parallèle avec un autre jeu, c'est plutôt l'inverse de Dragon's Dogma. C'est plutôt lent, il y a une auto-attaque, on n'appuie pas de multiples fois, c'est pas du tout un action RPG, c'est vraiment un RPG pur.
C'est un jeu où tu prends ton temps, où tu dois vraiment te poser pour...
Exactement, pour l'intérêt d'un combat, c'est pas voir les mises à mort, c'est gagner parce qu'on a été plus intelligent.
D'accord. Guillaume, est-ce que tu avais des questions?
Bah écoute, je pense que Tom a répondu moi à mes questions... ouais, donc tu disais donc c'était pas dynamique, mais en termes d'esthétique même, le jeu est-il joli ou pas?
En termes d'esthétique pure, le jeu est joli. Il y aurait peut-être pu avoir, il se trouve en ce moment que je joue à Dragon Age 3 aussi, qui a une interface et des artworks omniprésents et sublimes. Mm. Et du coup, Pillars of Eternity, je dois bien le dire, dénote un petit peu, parce que ces environnements sont vus du dessus, mais sont tout de même en sorte de 3D plaqué, comme par exemple les anciens Final Fantasy 7, 8, 9. C'est le même genre de graphisme, évidemment beaucoup plus beau, hein. Mais on aurait peut-être pu avoir un autre côté un peu, mettons, crayonné ou dessin, qui est pas présent. Seuls les personnages en fait sont en 3D, et graphiquement c'est pas le point fort du jeu. Néanmoins, donc, comme je vous disais, pour 4 millions de dollars, le gros intérêt du jeu, c'est le roleplay et l'écriture des quêtes. Donc réellement, c'est pas gênant. La direction artistique est très bonne, mais le rendu n'est pas exceptionnel.
Donc tu dirais que c'est un jeu qui respire la passion mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions.
Alors je dirais qu'il a les moyens, mais justement qui se veut dans la veine vraiment d'un Baldur's Gate 2. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix délibéré d'avoir ces décors entre guillemets un petit peu vieillots, mais remis au goût du jour.
D'accord. Alors, à qui finalement tu conseillerais ce jeu?
Alors, principalement aux passionnés de RPG, à ceux qui aiment lire surtout. Si vous êtes quelqu'un qui lit beaucoup... acheter ce jeu les yeux fermés parce que l'écriture est un bonheur. À ceux qui n'ont pas aimé Fallout 4, puisque l'écriture est un bonheur.
Et plutôt à des joueurs confirmés, du coup.
Alors oui,
pour le coup.
Forcément à des joueurs confirmés. Je ne le déconseille pas, cela dit, à des joueurs débutants, mais surtout des joueurs qui savent s'impliquer dans un jeu.
D'accord,
voilà,
oui.
C'est un jeu qui va forcément... Alors moi, j'ai fait mes 20 heures assez vite, mais c'est un jeu qui facilement va être difficile à reprendre, en fait. Mettons, si vous arrêtez d'y jouer pendant un mois, il y a toutes les chances que vous soyez complètement paumé en revenant. Donc voilà, un jeu de passionné plus que de confirmé.
D'accord, donc tu parles d'un jeu modeste, du coup est-ce que n'importe quel PC pourrait le faire tourner?
Alors là par contre oui, vu que les graphismes sont plus ou moins tous en 2D, à l'exception des personnages, même les configs les plus modestes peuvent le faire tourner. Vraiment simplissime. J'ai même ouï dire qu'il y a une version tablette tactile dans les cartons.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu lui vois des défauts pour l'instant? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même un petit peu gêné?
Oui, alors forcément, côté graphique, c'est pas la joie. C'est très correct, et comme je disais, la direction artistique est top. Néanmoins, ça aurait pu peut-être avoir un polish supplémentaire sur l'interface. Et donc, il y a aussi ce côté que tout prend un temps considérable. Réellement, le premier village dans lequel on arrive m'a pris une dizaine d'heures à finir, ce qui peut être décourageant pour beaucoup de joueurs, en fait.
Surtout si tu t'arrêtes et que tu reprends ça quelques semaines après, t'es complètement perdu. Enfin, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans les RPG, Guillaume, je pense que t'as déjà vu ça aussi.
Tout à fait. Alors, il y a tout de même un journal de quête qui rappelle bien ce qu'on doit faire, mais il y a toujours ce côté... Par contre, donc, c'est un jeu qui retranscrit très bien vraiment une aventure. C'est-à-dire que aller à la taverne, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant à faire, ou se poser quelques instants pour discuter avec nos compagnons, c'est quelque chose de plaisant à faire. Donc, il y a vraiment un côté aventure complète qui est vraiment top, mais encore une fois qui demande du temps et de l'investissement.
D'accord, très bien. Quelqu'un avait une autre question ?
Moi, je pense qu'on a fait le tour.
Je pense qu'on a bien parlé d'un petit peu de tout. Donc, est-ce que tu as une petite conclusion, quelque chose à dire ?
En conclusion, écoutez, achetez-le surtout au moins pour tester. Il se trouve facilement à moins que son prix originel. Et réellement, une très bonne surprise pour moi. Vraiment, un jeu d'il y a longtemps, sorti en 2015.
D'accord, et bah écoute, c'est très bien. Du coup, on va faire une nouvelle pause musicale avec toi,
ouais,
Guillaume.
Tout à fait. Alors là, on va s'écouter une musique de l'OST de Devil May Cry, qui s'appelle donc du groupe Combi Christ, qui s'appelle Gotago. On se retrouve tout de suite sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans l'émission C'est la faute à la manette. A tout de suite. Tic-tac. On vient de s'écouter donc de Combi Christ la musique Gotago sur l'OST de Devil May Cry, et vous êtes toujours sur C'est la faute à la manette.
Alors du coup, pour cette fin d'année, donc vous avez beaucoup mangé pendant les fêtes et vous vous préparez à passer un nouvel an, alcoolisé ou non, avec des amis ou de la famille. Et du coup, vous sentez que vous allez un petit peu vous ennuyer, il y a peut-être votre tonton Roger qui va faire des blagues un petit peu racistes et ça, vous n'en avez pas envie. Ou alors vos amis sont tout simplement un petit peu chiants, donc il va falloir un petit peu vous occuper pour ce nouvel an.
Ouais.
Et du coup, nous, on a la solution. Alors que ce soit avec des amis, que ce soit avec votre famille, on a trouvé toute une sélection de jeux un petit peu pour vous occuper, pour que vous passiez vraiment une soirée
pour
inoubliable
s'amuser,
et
ouais.
pour commencer vraiment à 2016 sur les chapeaux de roue, comme on dit.
À fond les manettes même.
Voilà, c'est le terme que je cherchais, bien joué. Bien vu. Alors, on va commencer du coup avec toute une liste de jeux pour jouer. Alors, soit avec vos amis qui débutent un peu dans le jeu vidéo, soit avec votre famille qui est vraiment un cas un petit peu plus compliqué.
Ça va être des jeux conviviaux.
Ça va être des jeux simples, conviviaux, que tout le monde peut jouer en règle générale.
Et aussi des jeux où, mettons, vous n'allez pas perdre vos amis ou vos membres de famille en y gagnant.
Sauf sur un.
Peut-être un ou deux.
On y reviendra. On va tout de suite commencer avec les jeux qui vous font perdre de la famille ou des amis.
Oui, commençons par cela.
Voilà. Alors, je voulais citer le fameux Mario Party. Donc, je pense que tout le monde connaît un petit peu Mario Party. Mario Party, c'est un petit peu le royaume de la mauvaise foi. C'est le royaume des mini-jeux qui marchent.
Aussi du aléatoire qui fait chier.
Voilà, et c'est aussi toujours à ce moment-là qu'on dit c'est la faute à la manette. Un petit peu comme le titre de l'émission.
Voilà.
Alors, Mario Party, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu de plateau en jeu vidéo. Avec Mario et ses amis, donc vous lancez un dé virtuel, vous avancez sur une case comme un jeu de loi, et une fois que tout le monde a fait son tour, il y a un mini-jeu, alors soit en collectif, soit chacun pour soi, et donc du coup, celui qui gagne, c'est celui qui ramasse le plus d'étoiles à la fin de ces mini-jeux. Vous pouvez gagner des pièces pour acheter des étoiles, il y a moyen de s'envoyer des bonus dans la tête, histoire de
piéger, etc.
Piéger vos amis et en même temps de perdre de vos amis pour toujours. Je pense que ça a brisé tellement d'amitié.
En leur volant une étoile.
En leur volant une étoile ou toutes leurs pièces.
C'est tellement horrible.
Dans le genre de jeu qui vous fera perdre vos amis, Mario Kart, je pense qu'il est bien placé.
Surtout quand t'es premier et que tu reçois une carapace bleue devant la ligne.
Voilà. Quelqu'un peut nous en parler un petit peu du dernier?
Oui, alors Mario Kart 8, c'est celui qui est considéré par les joueurs hardcore comme le meilleur Mario Kart. Grâce à ses circuits, on va dire, plus fous qu'avant, puisqu'il y a un mode, on va dire, zéro gravité, plus ou moins.
Alors oui, on peut se retrouver... Alors, c'est plus ou moins bien fichu, mais finalement, on peut se retrouver la tête en bas pendant que d'autres coureurs sont... la tête en haut, voilà. Et du coup, ça donne un effet un petit peu futuriste,
Mario Kart du futur.
Effectivement, on peut faire la course sur les murs. Il y a donc certains objets qui ont disparu, d'autres qui ont été rajoutés.
Personnages aussi.
Oui, des nouveaux personnages. C'est un jeu qui a été mis à jour assez souvent et qui surtout, même pour les confirmer, a un mode plutôt compétitif en fait. La précision nécessaire à l'exécution des meilleurs raccourcis, etc. est assez haute. Donc un jeu bien en famille. Pour s'amuser une fois de temps en temps, mais aussi bien si vous vous y mettez plus de temps.
Voilà. Et un dernier jeu qui vous fera perdre tous vos amis, c'est bien sûr Smash Bros.
Tout à fait. Je le considérerais moins comme un jeu où perdre tous ses amis, mais pour ma part.
Alors, ça dépend du niveau des joueurs,
effectivement.
En fait. Je pense que si on met que des joueurs débutants, ça va aller. S'il y a un joueur qui joue un petit peu mieux que les autres, ça va créer des tensions.
Effectivement, si vous êtes ce joueur, n'y allez pas trop fort, s'il vous plaît.
Et si tu es le gars qui fait toujours la même attaque, que tu ne peux pas parer...
Oui, à tous les joueurs de Pikachu... Non. Arrêtez.
Ou Kirby aussi.
Ou Kirby, effectivement.
Alors, est-ce que également on pourrait perdre des amis à cause de jeux comme Hammerwatch?
Alors, on ne peut pas perdre des amis à cause d'Hammerwatch parce que c'est un jeu coopératif. Hammerwatch, c'est donc un dungeon crawler. Donc, on se balade dans des donjons en vue du dessus. C'est un jeu en 2D toute mignonne. Et on tue des milliers et des milliers de monstres, comme par exemple à l'époque de Gauntlet, si vous connaissez. On peut y jouer à 4. Il y a des classes de personnages. On appuie toujours sur la même touche pour progresser dans les donjons. Mais c'est un jeu réellement amusant et pas prise de tête. Personnellement, je vous le conseille beaucoup, surtout en coopération. En fait, n'y jouez qu'en coopération, s'il vous plaît.
Alors, je vois également qu'on a noté Broforce.
Oui.
Est-ce qu'il peut m'en dire un petit peu plus?
Moi, je t'ai vu jouer beaucoup, Tom, et j'y ai joué avec un pote parce que... Et du coup, alors, Broforce, c'est quoi le principe? Donc, c'est un jeu d'action 2D, c'est ça, on pourrait
tout
dire?
Tout à fait, c'est un run and gun.
Ça rappelle un peu les Metal Slug, les trucs comme ça, non?
Effectivement, c'est pareil.
Et donc c'est très simple à manier, donc vous êtes un personnage plus ou moins plutôt connu des anciens films
d'action
des années 80, donc vous avez Rambo, vous avez Rocky.
Maintenant, il y a une quarantaine de personnages, mais on peut citer effectivement voilà, Rambo,
Matrix,
John Matrix ou Neo de Matrix. Il y a Will Smith de Men in Black, beaucoup, beaucoup d'acteurs. La dernière mise à jour a rajouté deux Lambert, Raiden de Mortal Kombat et Highlander.
C'est rigolo.
Il y en a vraiment beaucoup.
Et donc c'est un jeu très sympathique en solo, mais en duo c'est aussi très sympathique. Vous avez donc un mode coopératif où vous pouvez refaire les niveaux à deux,
oui.
Ou sinon il y a un mode de combat qui est très rigolo aussi.
Oui, 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 c'est vraiment un jeu immédiatement fun, c'est coloré, ça se joue bien, c'est...
Après, peut-être le seul souci quand vous y jouez en 1 contre 1, c'est qu'il y a certains personnages qui ont des avantages du coup, donc faites gaffe, ça peut aussi détruire des amitiés. Si votre ami prend des personnages qui tirent de loin et vous, vous vous retrouvez avec quelqu'un au corps à corps,
effectivement.
C'est plutôt trop problématique.
Alors, un jeu qui ne détruit pas les amitiés, du coup, ce serait WarioWare. WarioWare, c'est une compilation de, même pas de mini-jeux, de micro-jeux qui durent 3 ou 4 secondes.
Oui, c'est ça.
Et la version, je crois, oui, est très, très conviviale, puisque voilà, on fait des mouvements avec la manette.
Oui, et c'est totalement crétin, en plus.
C'est une action totalement crétine, du genre mettre un doigt
dans le nez,
chasser des insectes.
Avec des graphismes moches, en plus. Enfin.
Voilà, on mime une canne à pêche, on mime un marteau, oui. Avec
des superbes explications à chaque fois.
Voilà.
Le marteau. Tenez votre
Wii. En deux mots.
En deux mots, c'est débile.
Oui.
Voilà.
Mais génial,
bien sûr. Et voilà. Ça peut jouer, je crois, jusqu'à 4 en même temps.
Ah, on n'avait pas encore débloqué le mode.
Mais il y a un mode 4 joueurs.
Je crois qu'on peut même se passer la Wiimote et jouer à plus que
4. Ah, 8. Et oui, effectivement, on peut se passer la Wiimote. Ouais.
C'est un des premiers jeux sortis sur la Wii et il n'a pas eu de succès, ça qui est bien dommage.
C'est dommage parce qu'il était réussi pour un jeu Wii.
Et pour revenir toujours sur WarioWare, il y a eu un équivalent sur DS qui est sorti un peu avant, qui était aussi très excellent, donc je le conseille si vous avez plein de DS, jouez à celui-là aussi, WarioWare version DS.
C'est oui, le Touch. Touch, ouais, effectivement. Alors, il nous reste un dernier jeu avant de passer aux jeux musicaux, du coup, qui est Trine.
Oui, Trine. C'est un jeu PC, principalement, mais qui est aussi sorti sur console, si j'ai bonne mémoire. C'est un jeu où on peut y jouer à 3 maximum.
Ouais,
il y a 2 volets, donc Trine ou Trine, 1 et 2. Et c'est un jeu où on joue 3 personnages différents. Il y a dans un univers Heroic Fantasy, et on a un mage, une voleuse et un guerrier. Et ces 3 personnages vont devoir résoudre des énigmes et frapper sur quelques ennemis. C'est un jeu principalement de plateforme, donc avec une caméra comme dans Mario. Et c'est vraiment un jeu de coopération amusant, mais aussi avec certains petits moments de versus, en fait. C'est un petit peu aussi dans la même veine que Rayman Origins ou Rayman Legends. Imaginez ce genre de jeu-là avec plus d'énigmes. C'est vraiment excellent.
D'accord. Alors, du coup, on passe aux jeux musicaux, par console. Mm-hmm. Ce sera plus simple, en fait, pour les différencier. Mm-hmm. Donc, chez Microsoft, on a un jeu de chant qui s'appelle Lips.
Oui, n'existe que sur Xbox 360.
Que sur Xbox 360 pour l'instant, effectivement. Mm-hmm. Mais il y a eu des mix plutôt intéressants. Les chansons sont sympas. On en fait d'ailleurs régulièrement en soirée. Guillaume, je pense que
oui,
tu te souviens.
Je me fais souvent poutrer par les mêmes personnes parce que je chante très mal. Mais oui, c'est très agréable. Après, le seul problème que je redirai à Lips, c'est qu'il n'y a que des chansons anglophones.
Oui, uniquement.
Ce qui est assez frustrant. Par contre, moi j'ai un autre jeu sur Xbox One qui peut être sympa, c'est le jeu Fantasia, Disney Fantasia.
Ah, je connais pas,
c'est un jeu donc, qui avait été développé par Harmonix. Donc, Harmonix, c'est ceux qui ont fait quand même les Rock Band. Et en fait, du coup, c'est vous êtes maestro et c'est que des musiques de Disney, du coup, comme c'est Fantasia. Et graphiquement, c'est très joli. C'est donc très sympathique si vous aimez ça. Et maintenant, vous pouvez le retrouver pas très cher. Et il y a aussi quelques morceaux contemporains comme du Queen, du Police, du Jimi Hendrix, du M.I.A. comme on vous a passé au début de l'émission. Donc voilà.
D'accord. Alors en équivalent du coup sur chez Sony, on a SingStar qui lui existe sur PS4 mais d'une façon un petit peu particulière, c'est-à-dire que le jeu est gratuit mais vous payez toutes vos chansons à l'unité. Mm. Voilà. Et il n'y a pas besoin du coup aussi, et ça c'est l'avantage, d'acheter de micro puisque vous téléchargez simplement une petite application sur votre téléphone. Et vous avez juste à chanter directement avec le micro de votre téléphone.
J'ai testé ça hier d'ailleurs et ça marche très bien. Il suffit juste en fait que la console et votre téléphone soient connectés au même Wi-Fi et vous pouvez du coup utiliser votre téléphone tel un micro et ça marche bien. Il y a quelques démos gratuites en fait de musique, donc hier j'ai pu tester parce que c'est le seul truc qui me proposait, c'est du Lana Del Rey. Et en fait vous avez du coup 20 secondes de démo à chaque fois et sinon les musiques valent environ 99 centimes.
Voilà,
il y a des packs après et c'est rétro-compatible. Si par exemple dans votre PS3 vous voulez jouer à des anciens SingStar de PS2, vous insérez le disque et vous les importe. Voilà.
Alors j'aurais une question pour vous. Si j'ai par exemple acheté une chanson, donc à 99 centimes, est-ce que je peux la jouer un nombre limité de fois ou est-ce que je l'ai pour toujours?
C'est pour toujours.
Pour toujours, et même sur PS4.
Même sur PS4, ouais.
D'accord, donc c'est plutôt un très bon modèle économique.
C'est un très bon modèle économique, et pour jouer entre amis, dépenser un euro ou deux à chaque fois, c'est plutôt, plutôt une bonne solution.
Ouais.
Également chez Nintendo, on a alors peu de jeux musicaux finalement à part les Just Dance. Moi oui. J'en ai sélectionné deux. Un qui est sorti sur GameCube qui s'appelle Donkey Konga.
Ouais, avec les tam-tams.
Voilà, c'est ça. C'était un jeu à l'époque avec des tam-tams et qui était vraiment, vraiment très réussi, très, très sympathique.
Ouais.
Assez difficile à trouver malheureusement maintenant.
Oui, maintenant ouais.
Surtout pour le Konga.
Surtout pour le Konga, voilà. Mais si vous avez l'occasion de tomber dessus, essayez-le. C'est vraiment, vraiment un plaisir.
Ça rappelle un peu les jeux d'arcade, je trouve.
Oui, de bande d'arcade. C'est ça. On a également le jeu qui nous occupe toujours en fin de soirée, qui est Wii Music.
Ah oui. Ça, on en a passé du temps sur ce jeu, Wii Music, par donc, le grand de chez Nintendo,
Miyamoto. Qui l'a réalisé lui-même.
Alors, on se fait des groupes de musique magnifiques avec des covers magnifiques.
Alors, sachez que c'est un des pires jeux que j'ai dû jouer de toute ma vie, mais il en reste pas moins hyper drôle, hyper...
Tellement c'est nul.
Tellement c'est nul, ouais. Je pense qu'il vaut, en plus, je crois, un euro un petit peu partout, et c'est un vrai bonheur de...
En fait, donc, je sais pas si t'as expliqué, mais du coup, oui, le but, c'est de faire de la musique avec des instruments ou pas. Vous pouvez être pom-pom girl, par exemple.
Voilà, ou être un chien et faire des aboiements pendant tout le...
Ou des chats aussi.
Ou des chats, effectivement. Et l'idée, c'est que ce jeu n'a pas de notes, n'a pas de but.
C'est vous qui vous notez.
On se note nous-mêmes à la fin, donc on se met tout le temps 10 parce qu'on joue quand même super
100,
bien.
100, c'est sur 100.
Sur 100, voilà. On joue avec des petits chiens, des pom-pom girls et on fait un vacarme d'enfer. Et c'est à mourir de rire dès que vous avez un petit peu consommé de champomy, voilà.
Ouais, surtout. Ouais.
Sur Wii, j'en aurais peut-être un à rajouter, qui est un jeu de golf qui s'appelle Pangia. Pangia, donc tu parlais des jeux de fin de soirée. Pangia, c'est le jeu parfait de fin de soirée, faire un petit peu de golf et avoir mal au bras le lendemain. Il se trouve que Pangia est un jeu plutôt bien calibré et qui est surtout absolument débile. On ne frappe pas tout le temps dans des balles, on ne joue pas tout le temps des humains, on fait du golf dans les pyramides, sur des vaisseaux spatiaux, c'est vraiment très très drôle.
On dirait un nom de boisson pour
effectivement,
pour adolescent.
Buvez du Panga s'il vous plaît.
Ouais. également, pour finir un petit peu avec ça, on a tous les jeux à base de buzzer. Sur Xbox, on a Cinit, qui est essentiellement basé sur le cinéma, et sur Twilight, qui n'est pas du cinéma.
Ouais. oui, c'est
donc
ça.
C'est très simple, vous avez des questions qui apparaissent à l'écran, vous répondez avec votre buzzer, c'est comme un jeu télévisé, hein. il n'y a pas plus simple.
Ça sert à rien de jouer avec Julien parce qu'il ne regarde même pas les questions, qu'il a déjà la réponse, en fait c'est affreux, les questions ne sont même pas affichées, qu'il dit déjà la réponse, et vous ne comprenez pas, c'est qu'en fait il y a une espèce d'algorithme pourri qui fait qu'il a quasiment bon une fois sur deux. Quoi.
Non mais c'est le talent.
C'est le talent, c'est ça.
En équivalent, on a Buzz le grand quiz sur PS2, PS3, PS4.
PS2,
ouais, c'est ça. Et qui lui est un petit peu plus varié. Hein. C'est des questions généralistes, il me semble, un petit peu plus jeu télé.
Il y en a des plus spécialisés aussi, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des jeux Buzz qui sont donc généralistes avec un petit peu de tout, mais dans lesquels on peut choisir, mettons, d'avoir que des questions sur le sport ou que des questions télé.
Alors si un jeu comme Buzz et Cinit, alors il y a aussi le jeu Trivial Pursuit qui est sorti sur les consoles Next Gen qui peut être aussi intéressant.
Qui d'ailleurs a fait d'excellentes ventes, étonnamment.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, je pense que c'est parce que des grands youtubeurs ont fait une certaine vidéo dessus sur une certaine chaîne avec un certain monsieur et un certain autre monsieur sur un canapé, dont je tairai le nom. Et oui, c'est un jeu assez agréable, donc avec des questions de tout. C'est comme le vrai Trivial Pursuit, donc il y a des questions de sport, de culture, etc. Il faut choper tous les triangles pour se faire son fromage et gagner. Voilà.
D'accord, et un petit dernier jeu pour finir, histoire que voilà, vous ayez un choix absolument immense. C'est le jeu qui s'appelle Boom Blocks. Alors c'est un jeu qui a été réalisé par Steven Spielberg.
Le Steven Spielberg.
Qui consiste tout simplement à lancer des balles
sur des trucs.
Voilà, je pense que c'est la meilleure définition qu'on pourrait avoir.
Ça rappelle la liste de Schindler, mais...
Ça rappelle quand vous avez fini de jouer au Lego, plutôt.
Voilà, vous prenez une balle, vous faites tout péter, et Boom Blocks, c'est pareil, mais à deux. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fun, en plus.
Effectivement, ça se joue même jusqu'à 4.
Jusqu'à 4 en même
dans
temps.
Dans un mode où vous pouvez trahir vos amis.
Ouais. D'accord. Bah écoutez, je crois qu'on a fait
une pause musicale, je pense.
Ouais, je citerai juste avant de partir Sonic All-Star Racing, qui est un très bon équivalent à Mario Kart.
Oui,
avec
moi,
les personnages de
Sega.
Meilleur,
meilleur aussi, mangez-en. Donc,
bah, c'est mieux équilibré, je trouve.
C'est voilà, mieux équilibré.
Vous pouvez jouer avec Ralph, des mondes de Ralph dedans.
Et puis Sonic a la classe quand même.
Sonic a la classe. Sonic devrait courir à la place d'être en voiture. Néanmoins, Sonic a la classe.
Oui. C'est
donc
pas faux.
C'est tout pour les jeux conseillés à la famille et aux amis non geeks. On fait une petite pause musicale maintenant.
Ouais, donc on va s'écouter une musique sur l'OST de Shovel Knight. Donc ça s'appelle Strike the Earth, Plains of Passage. On revient tout de suite sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans l'émission C'est la faute à la manette. A tout de suite. Toujours sur Radio Campus Tour, dans l'émission C'est la faute à la manette, on est en train de faire notre sélection de jeux pour le nouvel an, donc voilà.
Alors, du coup, chers amis, chers auditeurs, on passe aux choses sérieuses. Donc cette année, vous n'avez pas été invité chez mamie, vous ne passerez pas le nouvel an avec vos parents, vous avez trouvé des amis, vous avez peut-être même des amis, un concept que l'on n'a pas trop ici chez
c'est
nous.
C'est quoi ça?
On n'a pas d'amis, d'ailleurs, on n'est pas amis, on fait l'émission parce qu'on n'a pas le choix, on est, ouais. on est tous ensemble.
Mais si vous étiez là, vous verrez que Tom est enchaîné, en fait.
Voilà, et on l'oblige à parler une fois tous les 15 jours parce qu'on en a besoin.
Ce
voilà.
qui me dérange, c'est pas tant les rats, c'est plutôt qu'on me donne que de la viande.
C'est surtout qu'à chaque fois que tu dis que c'est nul Fallout 4, on doit te frapper, donc comme tu le dis beaucoup par jour.
Je le dis de moins en moins.
Mais je pense qu'en 2016, il sera prêt.
Peut-être, oui, c'est ça, enfin.
Donc, vous avez de la chance, du coup, d'être chez des amis, et en plus des amis geeks qui partagent votre passion et qui ne passent pas leur temps à se coiffer avec du gel ou à faire des petites choses qui n'ont pas d'intérêt si ce n'est perdre du temps. Donc perdons du temps en jouant aux jeux vidéo avec des personnes expérimentées.
Effectivement.
Voilà, tout simplement. Alors on pourrait commencer du coup avec un jeu que moi j'apprécie particulièrement qui s'appelle Towerfall. Est-ce que quelqu'un connaît ici?
Oui, je crois que Guillaume aussi tu y as joué. On a dû y jouer ensemble.
Alors, attends, je sais plus à quoi ça ressemble.
Alors Towerfall, je vous expliquais vite fait, c'est des petits combats en arène. Vous êtes dans une petite arène entre 2 et 4 joueurs. Vous avez un arc et l'idée c'est de tirer sur vos adversaires tout simplement. C'est nerveux, c'est rapide. C'est super intéressant et ça permet d'enchaîner les parties à vitesse grand V et honnêtement on voit pas le temps passer, on s'amuse tout le temps.
Relativement technique. C'est-à-dire que le bon joueur de Towerfall gagnera très souvent contre le mauvais joueur de Towerfall, ce qui permet de se moquer de ses amis. Ce qui est la principale raison de cette seconde liste, en fait.
C'est ça.
Là, on va parler des jeux où vraiment vous allez pouvoir
montrer celui qui a la plus grosse compétence au jeu.
La grosse compétence, effectivement.
On pourrait parler aussi de Magicka.
Magicka, c'est un jeu où on joue des mages, d'où le nom, et qui permet de faire n'importe quoi avec des sorts. En fait, il se trouve qu'on a 8 touches, en tout cas dans le premier, qui représentent les éléments, donc le feu, la terre, la glace, la lumière, etc. Et on peut en combiner 2, 3 ou 4 pour faire un sort. L'intérêt de ce jeu-là, c'est qu'on ne sait pas ce que va faire le sort. Mettons, si vous prenez, par exemple, glace et feu, il y a toutes les chances que vous fassiez... un rayon d'énergie ou bien un souffle, etc. Et c'est un jeu en coopération, mais dans lequel vous pouvez tuer vos amis. C'est donc tout à fait ce genre de jeu-là où vous allez plus tuer vos amis que vos ennemis. C'est ce qui le rend fun. Sur PC.
Oui, on a également Rocket League sur PC et PS4, est ni plus ni moins que la fusion entre un jeu de voiture et un jeu de football.
Tout à fait.
Ça paraît saugrenu comme ça, mais effectivement, avec votre voiture, vous tapez dans le ballon et l'idée, c'est de marquer des buts avec votre voiture. Vous pouvez faire des pirouettes, sauter dans tous les sens.
Alors ça, c'est faut avoir un peu de skill, enfin de compétences.
Oui.
Donc moi, j'ai déjà joué presque une dizaine d'heures déjà sur Rocket League.
Guillaume doit avoir la plus grosse compétence de nous trois sur ce jeu.
Je dois avouer que c'est super agréable à jouer et j'y ai joué aussi avec des potes en écran scindé. Et c'est vraiment super agréable à jouer. Au début, c'est vrai que quand on arrive sur une partie, qu'on sait pas trop comment faire des figures et tout, c'est un peu perturbant, mais après, quand vous comprenez tout, c'est génial.
De toute façon, il n'y a pas de place pour les noobs.
Tu
cries,
tu pètes un câble dès que l'autre met un but, tu sais pas comment, c'est génial. Franchement, c'est très bien et le jeu vaut 20€.
D'accord, on peut également rajouter donc la série des Halo.
Avant
5, du coup, puisque si vous voulez faire de la coopération, c'est un petit peu compliqué. Donc tous les Halo de la Master Chief Collection sur Xbox One par exemple, c'est ce qu'il y a de plus simple.
Tout à fait.
C'est des heures et des heures et des heures et des heures de coopération, de match entre amis.
Jouez-y surtout en versus à 4, c'est là où vous vous amuserez
le plus.
Je suppose le plus. La coopération est bien, mais le multi à 4...
En plus, il y a tellement d'options, de paramétrage pour les... les armes, si tu peux en avoir des aléatoires, si tu peux avoir ceci, si tu peux avoir cela. Et il y a même des options pour faire juste des courses de voiture. Je sais pas si vous saviez, sur Halo 3, je m'amusais à faire des courses de voiture. C'est très rigolo, voilà.
D'accord. Alors, Tom, tu m'as parlé d'un jeu un petit peu particulier qui s'appelle Hidden in Plain Sight.
Alors, Hidden in Plain Sight, c'est tout bonnement un de mes jeux indés préférés. C'est un jeu qui coûte 80 centimes. Écoutez, moi, je l'ai eu à 80 centimes. J'ai souvenir de ça. Peut-être 1 euro. Disons 1 euro, puis à cause de l'inflation.
Voilà.
C'est un jeu donc extrêmement cher qui ressemble vraiment à un jeu de société. Il se trouve qu'en fait, dans ce jeu, vous devez ressembler à un PNJ. C'est-à-dire que vous allez avoir un écran.
Personnage non joueur.
Voilà, un personnage non joueur. Merci, Julien. Vous avez un écran vu du dessus où vous allez avoir plein donc, de PNJ et vous êtes l'un d'eux. Donc vous n'êtes pas un PNJ, mais un des autres joueurs a une mire, en fait, un viseur, et doit vous trouver, doit savoir qui vous êtes. Et vous, votre but, c'est de tuer les autres PNJ. C'est-à-dire que vous devez vous déplacer comme un PNJ avec des déplacements un petit peu erratiques, tout en tuant d'autres personnes.
Voilà, il faut rappeler aussi que tous les autres PNJ bougent un petit peu aléatoirement voilà, sur la carte.
Ils ne font que se déplacer, mais voilà. Vous devez avoir le comportement d'un PNJ, ne pas avoir l'air louche.
Donc en fait, c'est le multi d'Assassin's Creed en chip.
Effectivement, c'est plus ou moins le multi d'Assassin's Creed en chip, mais surtout, sans effet, vous ne pouvez que vous déplacer.
Et parlons du fait qu'il faut déjà se repérer soi-même.
Voilà, on ne sait pas qui on est au début.
On ne sait pas qui on est au début.
Effectivement, alors il y a d'autres modes de jeu... un mode course, un mode où il faut ramasser des pièces, un mode où vous devez tuer 3 personnes dans la salle, mais le principe est toujours le même, vous devez vous faire passer pour un simple PNJ. C'est vraiment un jeu très amusant, principalement à 4, en équipe de 2, ou même à 2, il est drôle.
Alors, du coup, sous les yeux, j'ai sur quoi il est sorti, donc il est sorti sur PC,
oui,
comme tu disais.
Sur 360,
sur Android aussi, sur PlayStation 1,
d'accord.
Sur PlayStation 1, oula, j'en suis
et
pas
sûr.
Et
sur Super NES.
D'accord, il y a peut-être eu des éditions collector.
Ouais, je pense que...
En tout cas, oui, c'est sûr qu'il tournerait sur ces trois consoles.
Sans problème. Voilà. On a également Trials. Qui est-ce qui veut nous parler de Trials?
Ah, Trials, oui, j'adore.
Moi aussi.
Alors, je sais pas si vous faisiez ça aussi avant que Trials existe, c'est aller sur des sites de jeux flash et jouer à des jeux de moto en 2D.
Comme par exemple Trials.
Voilà. Et maintenant que Trials existe, vous pouvez le faire du coup sur votre console. Donc Trials, c'est quoi? C'est en fait, vous avez un véhicule à deux roues, donc une moto, et le but c'est de finir un parcours en 2D. Donc avec des loopings, avec certains éléments, et du coup, c'est qu'avec la moto, donc il faut gérer. Comment la moto se balance vers l'avant, vers l'arrière, etc. Pas trop accéléré à certaines zones, etc. Et du coup, c'est très agréable parce qu'on peut y jouer du coup en multijoueur, en écran splitté ou alors en contrôle à montre, enfin des trucs comme ça. Et c'est souvent assez impressionnant parce que vous avez souvent des animations. Je me rappelle par exemple sur le Trials Fusion, vous aviez... je sais pas si c'est Fusion, où vous aviez une map, c'était un débarquement où vous aviez des explosions partout.
Oui, c'est Evolution.
Evolution, ouais, c'est pas Fusion. Fusion, c'est plus moderne. Mais du coup, c'est très agréable, ça. En plus, ça prend pas de temps à jouer, donc la manette tourne très rapidement.
On peut jouer en soi, c'est cool. À 4 d'un coup aussi, d'ailleurs, soit dit en passant. Il y a même des mini-jeux.
Et donc là, par contre, c'est vrai qu'il faut... être plutôt bon parce que c'est un jeu quand même qui demande certaines...
un certain skill, mais on rappelle qu'aucune place pour les noobs ici.
Ah voilà. Oui, là c'est vraiment un jeu qui demande de la patience, de la force, du skill, donc c'est vraiment, vraiment entouré de joueurs confirmés.
Tout à fait. PGM.
Voilà, alors plutôt... je vois qu'il est déjà 21h, mais je crois qu'on a
oui,
un
on
petit peu plus
débordé,
de temps d'émission.
Débordons.
On n'est pas débordé apparemment.
Tout à fait,
ouais,
ce
débordons,
soir.
Débordons.
On va si déborder. On peut déborder.
Alors du coup, on va continuer à parler des jeux pour geeks et... Personne confirmée. Je voulais un petit peu de précision sur Nidhogg.
Alors Nidhogg, c'est un jeu.
C'est pas un jeu. Alors attends, de mémoire, est-ce que c'est pas un jeu d'escrime?
Si, tout si. À fait. C'est un jeu d'escrime. Alors d'escrime le sport, hein. pas d'escrime médiévale comme vous pouvez le voir. C'est un jeu de fleuret.
Ou ni des films d'escrime.
Voilà, effectivement. Voilà. Wes Craven, si tu nous entends. c'est un jeu d'escrime en 2D où on peut se déplacer uniquement à gauche ou à droite. Encore une fois, en vue de côté, donc. Et où il faut simplement tuer son adversaire et courir dans la direction donc du scrolling.
Ah, c'est génial. Ouais,
voilà, c'est un jeu qu'on jouait beaucoup avec Guillaume pendant les pauses.
Pendant le cours même.
Pendant les cours aussi, mais on avait dit qu'on ne le disait pas.
Bah, c'était notre cours, c'était de faire ça.
C'est vrai que notre cours consistait à faire ça.
À jouer à Nidhogg.
À jouer à des jeux vidéo. C'est un jeu vraiment, vraiment amusant. Donc, alors, malheureusement, en seulement 1 contre 1, et gros défaut, c'est un jeu qui coûte 15€, ce qui est un petit peu honteux puisqu'il n'y a que 4 maps et un seul mode de jeu.
Alors, il est... pour sa défense, il est en réduction régulièrement pour 7 à 8 euros sur PS4. En tout cas, je l'ai vu
d'accord.
C'est
régulièrement
vrai.
À ce prix-là.
C'est un jeu, par contre, avec une bonne OST.
Ouais.
Et fun immédiatement. Mais bonne dose de skill.
Finalement, il faut une bonne dose de skill. Mais je trouvais que certaines personnes qui n'étaient pas trop des joueurs dans la salle quand on y jouait arrivaient à se débrouiller quand même. Enfin,
tout à fait.
Voilà. Donc, ça peut être un jeu aussi qui peut du coup aller bien à une soirée où il y a des geeks et des non-geeks. Donc voilà, ouais, à conseiller, même s'il est un peu cher.
Effectivement.
D'accord. Alors, on va parler d'un dernier jeu. Allez, on va parler de Lethal League.
Oui, Lethal League. Alors, encore une fois, Guillaume, Lethal League,
ah oui.
C'est plus ou moins un jeu de balle aux prisonniers, en fait. Vous êtes en vue de profil. Vous choisissez un personnage qui a plus ou moins les mêmes compétences qu'un autre, à quelques petits détails près. Et vous devez frapper la balle et l'envoyer sur vos adversaires. Le twist, c'est que la balle atteint des vitesses faramineuses et que la mise en scène est digne des meilleurs épisodes de Captain Tsubasa ou Prince of Tennis, déclenchant par exemple des éclipses ou des raz-de-marée sur les terrains, qui n'ont aucune incidence sur le gameplay.
Captain Tsubasa ou Olive et Tom.
Ou Olive et Tom, oui, excusez-moi. C'est un jeu très très amusant, 100% sur le skill, et à recommander 100 fois et 1000 fois. Fun immédiatement, très dur à maîtriser.
Ouais, assez dur, ouais, mais c'est très sympa.
D'accord, et ben voilà qui conclut. Donc je pense que là vous avez assez de matière pour passer un bon réveillon.
Non, oui. Et perdre tout.
Et perdre
amis.
Vraiment tous vos amis et votre temps.
Vous n'oubliez pas
argent.
D'amener une bonne bouteille de champomie pour les réconcilier.
Effectivement.
Du coup, est-ce qu'on aura le temps juste pour une petite rubrique de fin?
Oui, allons-y.
De bien finir.
Allons-y, c'est Noël, voilà. C'est de bonté.
Voilà, Noël, c'est dans pas longtemps en plus, donc
ouais,
voilà. Dans à peine 360 jours. Donc,
ouais,
allez.
C'est ça, ouais, 360.
Alors, on va juste inaugurer une petite rubrique qu'on voulait faire depuis le début, mais on n'avait pas beaucoup de temps. C'est la rubrique « À quoi vous jouez en ce moment ?». Donc concrètement, on va vous décrire un petit peu à quoi on joue en ce moment, et si ça peut vous faire découvrir quelque chose, c'est même tant mieux. On commence par toi, Guillaume, à quoi tu joues en ce moment ?
Alors, en ce moment, je joue à plusieurs jeux. Alors, certains sont très bons, d'autres, je vais me faire insulter, je pense. Donc, je me suis acheté il n'y a pas longtemps le jeu Catherine, disponible sur PS3 et 360.
Oui, donc, on y reviendra de toute
voilà,
façon.
Voilà, donc, j'en parle pas plus, mais donc très sympa. Je joue aussi un petit peu, je le fais parce qu'il faut le faire, à Destiny. Oui.
Je quitte la pièce.
Voilà,
je
suis bien désolé, mais je le fais parce que, voilà.
Tu as le sens du devoir et tu es... Voilà. Hein, tu...
Oui. Et sinon, je joue toujours, mais ça c'est très régulièrement, je joue toujours à comment ça s'appelle, Rogue Legacy, que j'adore, un jeu PC, mais aussi PS4 et One.
Et PS Vita.
Et PS Vita, que j'apprécie beaucoup, que j'ai fini déjà 2-3 fois, je sais plus. Voilà, et dernier pour la route, je dirais quel jeu aussi je joue. Je me suis mis à Castlevania Lord of Shadow.
Le premier ?
Ouais.
Oui, bon choix.
Bah, oui,
bon, très bon choix, très bon choix.
Voilà.
Ok.
Et
alors,
toi, Julien, à quoi tu joues ?
Alors, moi, en ce moment, je joue à deux jeux qui sont l'exact opposé. Alors, je joue à un Call of Duty. Oui, je le fais une fois par an. Je joue à Call of Duty Advanced Warfare, donc celui qui est sorti l'an dernier.
D'accord.
Je l'achète toujours un petit peu avec un an de retard pour qu'il baisse beaucoup de prix et pour pas le payer plus cher que 15€. Je pense que c'est
ce que ça vaut.
C'est logique. Donc, je ne fais que le solo à chaque fois parce que j'aime pas trop le multi. Et le solo, je dois l'avouer, de ce Call of Duty est quand même
est
bien
sympa.
Au-delà des derniers épisodes qui sont sortis.
C'est celui avec Kevin Spacey.
C'est
exactement,
ça, ouais.
Exactement.
Il
et je pense que les innovations sont intéressantes et par rapport à l'horreur qui étaient ceux d'avant.
Ghost,
Black Ops 2, c'était horrible. Donc, et là, je pense que la série repart bien et apparemment Black Ops 3 n'est pas horrible non plus.
Un petit plagiat Titanfall, on dirait.
Voilà, tout à fait. Également, je joue à un jeu qui n'a rien à voir, qui s'appelle Professeur Layton, que vous connaissez tous, versus Ace Attorney, que vous connaissez moins tous, mais qui est une simulation d'avocat de base. Professeur Layton, qui est le roi des énigmes. On a mélangé les deux et on a fait un jeu avec des énigmes et une simulation d'avocat. C'est bien écrit, c'est sympathique, c'est un peu bavard souvent, mais le jeu est tout en français, doublé en français.
Ah bien.
Il y a des séquences animées qui sont très très jolies. Allez-y, c'est sur 3DS, je crois qu'il vaut encore un petit peu cher, mais il vaut le coup, et voilà, il a l'air assez long en plus de ça. Et toi, Tom, du coup ?
Alors moi, je vais en avoir 4, disons, pour ces deux dernières
Allez,
semaines.
Vas-y.
J'ai dévoré Metal Gear Solid 5. Alors, sachez, c'est un jeu un petit peu polémique. Hein. Certains aiment, d'autres détestent. Moi, je n'aime pas énormément la série, mais celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé pour son gameplay. Qui est vraiment top. Dans pas du tout le même genre, je joue à Wolfenstein The New Order.
Très bon, très sous-estimé.
Excellent, vraiment, jouez-y beaucoup, parce que c'est un FPS solo, et il y en a très peu ces temps-ci.
Faites aussi son extension, qui est
très
bonne.
Qui est sortie il y a peu d'ailleurs, je crois. Qui
est sortie en 2015.
Oui, voilà, en 2015. Je joue donc forcément à Pillars of Eternity. Je ne reviendrai pas dessus, jouez-y. Et j'ai commencé il y a très peu de temps Dragon Age 3. Beaucoup en retard, mais c'est pour l'instant un bon RPG. Peut-être que j'y reviendrai sur une autre semaine pour vous dire ce que j'en ai pensé, parce que là je suis vraiment au début. Et donc voilà, je reviendrai dans 50 heures.
D'accord, et ben voilà qui conclut du coup cette troisième émission. On vous souhaite à tous un très très bon réveillon. Ne tombez pas malade comme moi. Profitez de votre nouvel an. Dites-vous que 2016 va être sûrement une meilleure année que 2015. C'est ce qu'on dit tous. Donc amusez-vous et on vous dit du coup à partir de janvier, dans 15 jours pour le quatrième numéro.
Le 12 janvier.
Le 12 janvier exactement, avec peut-être des nouveautés si d'ici là on...
Si on a travaillé.
Si on a travaillé, si on arrive à se réunir, on essaiera.
Mais le champomy, ça risque de taper sur la tête.
On reviendra à une formule un petit peu plus classique, donc on parlera d'un jeu ou d'une série à partir du 12 janvier. Donc voilà, on vous promet des surprises.
Voilà,
à
donc,
dans deux semaines.
Voilà. Avant de vous quitter, on va écouter une dernière musique quand même.
Oui, bien sûr.
Donc on va s'écouter donc une musique de l'OST du jeu Life is Strange qu'on a parlé là il y a deux semaines, donc
même la semaine dernière, je crois.
Le dernier épisode.
Ouais. Enfin, le dernier épisode. Et donc c'est la musique est To All of You par Side Matters. Donc c'est parti. À bientôt sur Radio Campus Tour dans l'émission C'est la faute à la
À bientôt, bonne année.
À bientôt
ciao.
Et bonne année.
Ciao.
To all of you, American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies, with shiny smiles and plastic bodies. I wish I had to complain. That's when I fly.